RMC, entre les poteaux,
Roxane Lacusca.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel apéro des poteaux, le dernier de la saison régulière, le dernier avant de se plonger dans les phases finales qu'on attendait tant. Et oui, c'est déjà la 26e journée de Top 14 qui se joue ce week-end. Et si on sait déjà qui terminera premier, à savoir le Stade Toulousain, pour tout le reste du classement, rien n'est totalement joué. L'occasion pour nous d'éplucher trois rencontres primordiales, UBB Clermont, Racing Toulouse et La Rochelle Stade Français. Pour aborder cette 26e journée, j'accueille notre spécialiste des clubs parisiens, Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut Roxane, salut à toutes et à tous.
Tes clubs jouent gros, toi, ce week-end. On va y revenir, mais les deux ont des enjeux.
On n'y croyait plus pour un des deux, et finalement, il y a de l'enjeu pour les deux.
Exactement. Et du côté de la façade atlantique, on retrouve Romain Asselin. Salut Romain. Ça va, et toi?
Lui aussi, il joue gros.
Mais je vois que Pierrot,
Attends,
oui, mais Pierrot, il a le sourire parce que l'année dernière, il était en bas de classement.
Ah, l'année dernière, j'étais pas là. L'apéro des poteaux de la dernière journée, j'étais pas là. J'étais pas convié.
Mais t'as serré les fesses toute la saison. C'est autre chose.
Ça va beaucoup mieux.
Je dis la façade atlantique pour Romain, parce qu'aujourd'hui, il est spécialiste de La Rochelle, mais aussi de l'UBB.
Voilà, on fait tout. Je vais descendre à Pau aussi bientôt, puis à Bayonne.
Mais il n'y a pas d'Atlantique à Pau, par contre.
Puis à Vannes bientôt aussi.
C'est vrai qu'il y a Vannes qui arrive.
Effectivement, peut-être. À suivre ce week-end, la finale de Pro D2. Messieurs, on va détailler ces rencontres, mais d'abord, je vous rappelle le programme. Tout le monde joue à 21h05 ce samedi. Parmi les affiches sans véritable enjeu, on a Bayonne-Perpignan et Castres-Toulon. Ceux qui ont un peu plus d'enjeux déjà, c'est Lyon-MHR et Pau-Montauban. Ça sera surtout pour le Montpellier et Pau qui jouent pour la deuxième place. Et enfin, les trois affiches du coup, sur lesquelles on va s'attarder, je viens de vous le dire, mais je vous le répète, Racing-Toulouse, La Rochelle-Stade Français et UBB Clermont. On va commencer avec Racing Toulouse, Pierre. Le Racing est actuellement 5e avec 70 points. Toulouse est premier et le restera, quoi qu'il arrive, avec 86 points au compteur. C'est une affiche qui a fait parler d'elle cette semaine, notamment côté Racing. Le club francilien compte un certain retard sur le nombre de joueurs GIF alignés cette saison. Et ils doivent en mettre tout simplement 18 sur la feuille de match ce week-end.
Exactement, alors, ça a fait beaucoup parler. Ils sont à 15,92 GIF en moyenne. On le rappelle, la règle pour les joueurs issus de la formation française, c'est d'en avoir en moyenne minimum 16 par rencontre de top 14. Le Racing est le seul club à être légèrement en dessous de ce seuil-là. Et évidemment, ça a beaucoup fait parler, d'autant que c'est via le Stade Toulousain que cette petite info est remontée. Donc ça a fait un petit peu râler côté Racing 92. On va pouvoir écouter Patrice Collazo dans quelques instants. Mais la donne était simple, il fallait mettre 18 GIF sur la feuille de match samedi. Sinon, en cas d'élimination, ils auraient fait face à un retrait de 6 points à la rentrée prochaine. Mais écoutez Patrice Collazo, il l'a assuré, il n'y avait aucun souci, tout est très bien géré par son club.
Donc effectivement, j'ai vu ça, qu'on a fait un peu la une en 24 heures. Il y a eu la perf à Clermont, il y a eu les gifs. C'est bien, parce qu'en 24 heures, on est revenu un peu sur le devant de la scène. Si on parle de nous, ça veut dire qu'on est redevenu un peu bankable. Ça, c'est bien pour le club. Le problème des gifs, on ne m'a pas posé la question avant Clermont. Mais en fait, avant Clermont, on ne dérangeait personne, puisqu'on était 8e. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'on est en 5e, on dérange un peu plus de monde. Ça me fait penser à ces mecs qui font de la politique. Ils disent le jour où ils se présentent au présidentiel, c'est des super mecs. Et le jour où ils se présentent, en fait, il y a des dossiers qui tombent. Donc ça me fait sourire. Pour nous, il n'y a rien de nouveau. On va rassurer tout le monde. La meilleure équipe jouera. Il n'y a pas de chape de plomb. Il n'y aura pas 6 points en moins, comme ça a été titré. Il y aura l'équipe qui, pour nous, sera la plus compétitive pour jouer contre Toulouse.
Voilà, un petit peu d'agacement de Patrice Collazo. Romain, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu l'as connu beaucoup à La Rochelle. Le discours, je le comprends, de Patrice Collazo qui dit « Vous pensez vraiment que vous m'apprenez qu'il manque des gifs et que je ne vais pas les mettre en dernière journée ?» Mais en fait, il le dirait avec un sourire que ça passerait tout à fait. Mais Patrice Collazo, il le dit souvent avec la mâchoire un petit peu fermée, en étant énervé. Mais on peut le comprendre aussi de dire que, voilà, évidemment qu'il avait vu qu'il devrait aligner 18 gifs.
Ouais, ça me fait penser à une petite collazade.
Oui, voilà.
Mais tu sais quoi, je pense qu'il n'est pas si mécontent que l'attention soit fixée là-dessus. Se débarrasser un peu de tout le poids sportif qu'il y a. Là, on parle de l'extra-sportif. Évidemment qu'ils ont calculé leur coût. Évidemment qu'il n'y avait pas besoin de le rappeler. Mais quand même, je pense que c'est important pour les téléspectateurs.
Et c'est factuel de le dire en plus.
Exactement.
Enfin, y a pas de...
Et bien sûr. Parce que la moyenne de GIF augmente chaque année et qu'il faut se conformer à cette règle sous peine de sanction. On parlait de 6 points. Évidemment qu'on va en parler. Alors, il aurait pu... le Racing pourrait se permettre, mais en prenant un risque, de passer la moyenne en barrage, ou en demi, ou en finale. ce serait beaucoup trop risqué.
Et il l'a dit, lui, on n'a pas fait d'opération GIF cette saison. En effet, ils n'ont jamais envoyé d'équipe à 20-22 GIF, mais ils en ont mis moins que 16 face à Montauban, par exemple. Donc des fois, on se dit un peu, on se questionne. Mais bon, ils gèrent évidemment leur club.
Mais ça veut dire quoi, opération GIF? Ça veut dire qu'on fait tourner?
Oui, ça veut dire
c'est
balancer
ça
un match.
Bah oui, mais alors, je suis désolé, mais il y a plein. Les clubs qui ont le plus de GIF. Je suis désolé, mais il y a aussi parmi les clubs les plus performants.
Bien sûr, non, mais bien sûr.
Donc bon.
Mais comme tu le dis.
Le club qui en affiche le plus, c'est le Stade Toulousain.
Oui. Voilà. Après, c'est pas n'importe quel GIF.
Bah oui.
Non, c'est sûr.
Mais
peuvent se permettre de faire tourner en mettant des joueurs GIF, vu la qualité des GIF qu'ils ont aussi dans leur effectif.
Et le Racing se base beaucoup sur ces joueurs étrangers, sur sa tripotée de Fidjiens, sur Nathan Hughes, qui sont très importants dans l'effectif. Et ça, c'est un fait. Maintenant, comme dit Romain.
J'ai l'impression que GIF, c'est un gros mot. Pardon, je tire le fil un peu, mais j'ai l'impression que c'est toujours un gros mot.
Ouais, c'est vrai.
Alors peut-être de moins en moins, parce qu'on se rend compte que quand même. Alors on rappelle ce que c'est, hein, c'est les joueurs issus de la formation française, la filière de formation, j'ai un doute entre les deux, mais
formation
peu importe. Au début, c'était perçu comme il va y avoir des impasses, tout ça. On se rend compte avec le temps et avec les générations dorées qu'on a qui arrivent d'en bas, des jeunes, que un GIF, ça reste un joueur très costaud dans le top 14. Je veux dire, c'est plus un gros mot, quoi. Mais on a l'impression que ça l'est toujours. Moi, ça me dérange un peu, mais bon.
Alors, il va en afficher 18 ou pas? Il va en aligner 18.
Exactement, 18. On se disait 18-19. Est-ce qu'il va prendre un peu plus de marge par rapport au barrage potentiel à venir? Non, ce sera 18 pile pour le Racing 92. On vous donnera la compo dans un instant. Comme disait Romain, en effet, ça détourne un petit peu du sportif parce que c'est la première fois de l'année que le Racing est dans une position de favori pour la qualification où on va les regarder en disant si vous gagnez vous êtes qualifié. Donc maintenant ça ne dépend plus que d'eux, alors toute la saison ils étaient un peu sous les radars à faire des matchs parfois pas très aboutis, même s'ils étaient invaincus à domicile jusqu'à la venue de La Rochelle, mais ils se font un petit peu peur face à Lyon, face à Perpignan. Ils passent tout près de faire des coups un peu dans l'anonymat du côté de Castres notamment, où ils échouent tout près. Là, leur performance à Clermont la semaine dernière, c'est la meilleure de la saison, ouais, incontestablement. Et j'ai l'impression que ça les a aussi un peu remis sur la carte de « attention, c'est une équipe qui, certes, est costaud, comme le sont d'autres, mais dans le podcast la semaine dernière, je me rappelle de Julien qui disait, et j'étais d'accord avec lui, Racing et Clermont, ils font pareil, mais Clermont fait tout un petit peu mieux.
Ouais.
Et on s'est rendu compte que non, le Racing a peut-être un peu plus de talent qu'à Clermont, notamment avec des facteurs X, Letu Soval et Abossi qui font un match énorme du côté de Clermont. On a vu que c'était une équipe un petit peu différente, meilleure que celle qu'on pensait. Et là, ils sont sous les radars, personne ne les voyait gagner à Clermont. Et maintenant, il faut battre Toulouse pour se qualifier. Et donc, en effet, sans doute que parler des GIF, ça permet aussi un peu de se décaler de ça, mais la donne, elle est simple pour le Racing. C'est une des seules équipes dans ces matchs-là chauds qui est dans ce cas-là. S'il gagne, quel que soit le nombre de bonus, quels que soient les résultats des autres équipes, une victoire et ils sont qualifiés.
C'est ça, ils ont les cartes en main.
Ils ont les cartes en main et après la défaite face à La Rochelle à la maison, on ne pensait vraiment pas que ce serait le cas parce qu'ils avaient ce calendrier qui était un peu bizarre avec 4 réceptions et 2 déplacements, dont un à Montauban, où on se disait en fait la voie est royale, mais 4 réceptions, il faut gagner les 4 et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc on se disait c'est mort, tout le monde est repassé devant et ils font cette perf énorme
rien
à Clermont.
Rien n'est mort cette saison. Rien n'est mort.
Rien, c'est dingue. Et le match qu'ils font à Clermont, honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout.
Moi, je pense que personne s'y attendait.
Je me disais, ils peuvent les
embêter. L'apéro de la semaine dernière, si on le réécoute a posteriori,
pour les avoir vus toute la saison,
on a tous dit.
En fait, quand on regarde cette équipe, impossible. Mais je suis d'accord, mais quand on regarde cette équipe sur le papier, on se dit elle est dingue en fait.
Mais c'est le cas de pas mal d'équipes,
oui,
finalement.
Oui, ouais. Mais je trouve que sur le
parce
papier,
parce que celle de Clermont aussi sur le papier est quand même
ouais,
pas
mais
mal.
Je trouve que sur le Racing c'est plus costaud. Dingue. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que purement d'un regard extérieur, quand on regarde les noms couchés sur le papier, le Racing a des joueurs que Clermont n'a pas. Ils ont une charnière qui est un peu plus faible côté Racing, mais il y a des joueurs où tu te dis ils sont parmi les tout meilleurs du championnat à leur poste. Je parlais des centres fidjiens, je parlais de Nathan Hughes, ils ont une deuxième ligne, John Hill, Romain Tao. Oui, ça marche pas très bien cette année parfois, mais en fait sur le papier c'est très très fort.
Bien sûr.
Et pour la première fois ça a cliqué correctement à Clermont.
Ah, c'est vrai Romain que la semaine dernière face à Clermont ils ont fait quand même très forte impression les Racing Men.
Ah oui, mais voilà, ça me fait penser à Clermont qui va batailler à Toulouse et qui fait l'exploit. Ça me fait penser à La Rochelle qui fait la même chose au Racing. Enfin, je pense qu'on a fait des pronos bidons, quoi. Ils nous ont tous.
Le niveau est tellement resserré. Le niveau est tellement resserré.
C'est ce que je voulais dire. C'est ça qui est tellement dingue. Et moi, j'adore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une telle densité dans le championnat. Et alors, ça paraît bateau à chaque fois, on le dit tous les ans. Oui, et les joueurs le disent. Hein, les qualifications, c'est de plus en plus serré. Machin. Ça paraît bateau, mais quand tu regardes dans les faits, quand tu regardes les effectifs, moi, je trouve ça juste oufissime. C'est incroyable d'avoir autant d'équipes capables d'aller chercher le titre. Alors, d'aller chercher le titre, peut-être pas, mais quoique...
cette année, peut-être
si,
plus que jamais. Ouais.
Exactement. Mais en tout cas, d'aller en finale. Je veux dire, mais enfin, c'est... Alors, tu parlais du Racing quand tu regardes poste par poste, mais en fait, on peut se faire la réflexion quasiment sur toutes les autres équipes. Alors, Pau, peut-être moins le paquet d'avant, et encore
ouais,
que...
Ouais, encore, hein. Ouais, c'est bien densifié quand même.
Toulouse, Montpellier, Stade Français, je prends le classement dans l'ordre hein, à l'instant T. Pau, Racing, Bordeaux, La Rochelle. On peut ajouter Clermont, on peut ajouter Toulon. Waouh, c'est fou. Donc, c'est peut-être pas si surprenant d'avoir ce genre de perf, quoi. Je pense que ça peut se démocratiser. Et encore plus en fin de saison, où on oublie souvent que... à partir du mois de mai, quand ça commence vraiment à basculer sur des matchs éliminatoires, je veux dire, c'est les dynamiques hein, qui prévalent. Hein, et c'est les forces en présence, hein, plus que les statistiques passées ou tout ça. Donc, c'est pas la première fois où en fin de saison, on a des pronostics qui partent
non,
en sucette.
C'est
hein.
sûr. Pierre, est-ce que tu as la compo du coup du Racing?
Ouais, alors sur la première ligne, on aura les deux piliers géorgiens GIF du Racing, Gogi Chachvili et Karajvili avec Yannick Tarit au talon, Johnny Hill et Romain Taofifenua en deuxième ligne, Maxime Bodon qui aura donc joué tous les matchs de la saison régulière de Top 14, Maxime Bodon, le meilleur plaqueur du championnat, associé à Soumaïla Camara, le jeune troisième ligne, et Tagi Tagi Valou, donc deux noms GIF dans le pack, Hill et Tagi Tagi Valou, Carbono à la charnière avec Gibert, Tuisova à Bossi au centre, Fikou sur l'aile gauche et Naitouvi sur l'aile droite, et Max Spring à l'arrière, et petite opération GIF donc sur le banc avec seul Diego Escobar, le talonneur chilien, et sinon que des joueurs français. Djabéa en pilier gauche, Demba Bamba en pilier droit, Jordan Joseph, Ibrahim Diallo, Fabien Sanconi, Hugo Sen et Ashvetia, le jeune centre du centre de formation sur le banc face à Toulouse.
Donc, alors, qui sont les quatre noms GIF sur le...
Johnny Hill, ouais. Tagi Tagi Valou, il me semble qu'il n'est pas GIF, Vinaya Abossi et Wame Naitouvi.
Ok. Naitouvi, il n'est pas GIF, t'es sûr? J'ai un doute. Hein.
Alors,
parce que je me demande si en fait, s'il n'y en a pas 19 sur la feuille.
Je vérifie ça de suite. Ouais, donne la compo du Stade Toulousain. Je vérifie.
Non, mais c'est vrai, on va passer au Stade Toulousain parce que c'est un match où on se demandait s'ils allaient faire tourner ou pas Romain, sachant que le Stade Toulousain, on le répète, est premier, est assuré de terminer premier et donc d'être qualifié directement en demi-finale. Ça, on le sait déjà depuis un petit moment. Donc la question était de savoir, est-ce qu'on enchaîne et on demande aux titulaires indiscutables de garder un peu de rythme et on continue de jouer en attendant ces demi-finales, ou est-ce qu'on fait déjà tourner, on se met déjà au repos en attendant ces demi-finales qui auront lieu dans 15 jours?
Je vais sortir un joker, je vais faire l'entre-deux équipe mixte, on va dire. On aurait pu s'attendre peut-être à plus de cadres. Parce que le contexte fait qu'ils ont aussi besoin de se rassurer et après 2-3 sorties pénibles d'un match référence avant une semaine de coupure et avant la demi. Maintenant, on sait que Toulouse en mode phase finale, ce n'est pas le Toulouse de la saison régulière. Mais il y a encore des absents, notamment Antoine Dupont qui n'est pas là, toujours son pépin musculaire. Je vais vous donner la compo parce qu'il y aura des choses à en redire hein, d'ailleurs. Première ligne, Malaise, Marchand, Aldeguerri. Deuxième ligne, l'attelage Elias, Verger. En troisième ligne, on va retrouver un certain Thomas Lacombre avec Brennan et Roumat. La charnière, Saito, Kinghorn. Au centre, Gourg, Coste. Sur les ailes, Capozzo à gauche, Teddy Thomas à droite. Et Remu pour couvrir le fond du terrain.
Sur du synthétique, c'est pas mal. Ça va, ouais. Ça va envoyer un petit peu de
quand
jeu.
Même. Hein. Et sur le banc, Cramon, Baye, Merclair, Willis, Cross. Oula, ça fait mal ce banc.
Oh, le banc, il est...
Ramos, attends, j'ai pas fini. Ramos, Lebel, Colombe. Ouf, je t'en rajoute trois de plus là.
Voilà.
Mixte, gros banc.
Ça va jouer.
Mais bon. Bon
après, de toute façon, on le dit toute l'année. Hein, le Stade Toulousain, même quand ils font tourner,
voilà,
bon, ça reste une équipe. Compétitive, d'autant que Pierre-Ange Capozzo l'a dit cette semaine, c'est une équipe qui a besoin de retrouver un peu de la connexion.
Exactement, on se dit tous, est-ce qu'ils vont jouer ce match-là? Est-ce qu'ils vont laisser Bordeaux hors du top 6 en faisant exprès de perdre Racing? C'est pas possible, déjà on peut pas faire exprès de perdre sur un match de rugby. Et en plus, ils ont besoin de confiance, ça fait longtemps qu'on les a pas vu faire un bon match. Et je pensais que ce match où ils feraient le plan de confiance, ça serait face à Lyon la semaine dernière, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été encore un petit peu compliqué, donc en effet, ils ont besoin d'un match référence. Ils ont pris l'habitude de gagner sur la pelouse de Paris La Défense Arena, donc ça semble être le match parfait pour eux, et c'est l'équipe parfaite pour embêter beaucoup de monde, mais pour embêter évidemment cette équipe du Racing qui est assez lourde, on le dit souvent, et qui se met souvent en danger sur sa propre pelouse, parce que les équipes adverses viennent jouer, viennent envoyer dans tous les sens, et parfois ils sont un petit peu dépassés. Ça avait été le cas contre La Rochelle, notamment Romain, où les Rochelais avaient mis beaucoup plus de volume dans leur jeu, et ils avaient fait mal aux Franciliens, donc évidemment que ça va être compliqué. Pour le petit sujet des gifs du coup, du Racing 92, il y a bien 4 non-gifs sur le terrain, puisque okay. Naitouvi n'est pas gif, tout comme okay. Abossi, Johnny Hill et Escobar, mais Tagi Tagivalu, lui, est gif. Donc on a bien 4 non-gifs, Naitouvi, Abossi, Johnny Hill et Diego Escobar sur le okay. terrain. Donc on revient voilà. à l'équilibre.
Très bien, voilà pour ce match Racing-Toulouse. Si vous voulez un peu approfondir ce sujet sur le stade toulousain, sachez qu'on y a consacré un épisode entier lundi dernier, qui est évidemment à retrouver cet épisode sur toutes vos plateformes d'écoute, vous en avez l'habitude.
Tiens, juste pour terminer sur la compo de Toulouse, Lacombre en troisième ligne, ça peut surprendre à première vue, parce que c'est un talonneur.
C'est vrai.
Pas de formation, enfin si, depuis qu'il est au stade toulousain, mais c'est pas la première fois qu'on voit des talonneurs qui font la navette en troisième ligne. Il a joué troisième ligne très jeune. Voilà, donc certains bien. Pourraient penser que Toulouse fait encore plus tourner, fait des expériences. Bon, attention, je pense qu'il sait ce qu'il fait, Gomola.
Oui. Et il y a de plus en plus quand même, on pourra en parler, de ces joueurs les plus en plus hybrides, parce que les troisième ligne, on a vu des centres y jouer, on va en reparler tout à l'heure. Il y a des talonneurs qui peuvent y jouer aussi.
C'est un truc de fou.
Et c'est ouf, le joueur de rugby se peut jouer partout.
Après, un talonneur, c'est un porteur de balle.
Il faut se déplacer en 600.
Ouais, mais bon, t'as beaucoup de talonneurs qui portent bien le ballon, costaud au sol. Enfin, je veux dire.
On en parlait justement dans l'épisode qu'on a consacré à la dureté physique du top 14. Et on a aussi évoqué ce fait que les joueurs sont de plus en plus polyvalents et sont capables de jouer un peu à toutes les lignes, ou presque. Surtout quand on est devant, c'est un peu plus. Première ligne reculée, plus simple que l'inverse, que d'avancer sur la première ligne. Messieurs, Toulouse qui se trouve des nouveaux supporters ce week-end, pas des moindres, parce que c'est le Stade Rochelet, Romain, qui sera derrière Toulouse, une fois n'est pas coutume. Rochelet qui vont devoir compter sur leurs meilleurs ennemis s'ils veulent se qualifier dans les 6, ils peuvent compter soit sur Toulouse, soit sur Clermont pour se qualifier, parce qu'une simple victoire du Stade Rochelet pourrait ne pas suffire, Romain, ce week-end face au Stade français.
Même un bonus, dans le cas de figure où le Racing gagnerait son match face à Toulouse et l'UBB prendrait le bonus face à Clermont. C'est quand même dingue de se dire que l'équipe qui est, on va dire, la plus en forme du moment, en tout cas d'un point de vue comptable et même dans le contenu, ce que font les Rochelais, c'est quand même très intéressant depuis maintenant... un mois et demi, cette équipe-là, même en prenant un bonus, alors attention, on en est loin encore, mais face au Stade français demain soir, pourrait ne pas être en phase finale. Parce qu'ils n'ont pas leur destin entre leurs mains, parce que le Racing a gagné à Clermont et parce que l'UBB a pris un point de bonus à Toulon la
semaine
dernière.
Oui, mais Romain, aussi parce que toute la première partie de saison était cata. Non, mais la qualif en phase finale.
Mais
il y a eu un creux qui a été énorme. Oui. Et je veux dire, une qualif en phase finale, c'est aussi un reflet de la saison. On en a déjà parlé, de dire que oui, je suis d'accord avec toi que le Stade Rochelet, sur ce qu'on voit, ce Stade Rochelet-là, il mérite d'être dans les 6, évidemment. Mais il partait tellement loin.
Je
ne
sais pas s'il mérite.
Non, mais en tout cas, sur le niveau affiché actuellement. Je veux dire, sur le niveau affiché actuellement, c'est une équipe qui est dans les 6 meilleurs du top 14. Mais une saison, c'est long et ils ont laissé beaucoup de plumes en route aussi.
La Rochelle qui est actuellement 7e avec 68 points face au Stade français, donc 3e avec 78 points, qui a égalité avec le MHR. Et vous en parliez, messieurs, La Rochelle qui a un peu alterné entre le pire et le meilleur ces derniers temps. Et ils sont conscients, les joueurs rochelais, que c'est un contexte un peu particulier dans lequel ils jouent en ce moment et qu'il faut en profiter et qu'ils sont heureux de jouer ces phases finales.
On est sur un match où on peut se qualifier dans les 6. Il y a 6 semaines, on jouait pour accrocher une place dans les 8 et jouer la Champions Cup l'an prochain. Donc, on veut continuer à prendre du plaisir le week-end. Ça fait quelques semaines, tout le monde se régale. Que ce soit nous sur le terrain, que ce soit les supporters, que ce soit le staff. On sent qu'il y a quelque chose qui est agréable. On est détendu et on a envie de ça se poursuivre au moins un week-end de plus. Donc, on va sur le terrain, on se concentre là-dessus. Ouais.
Voilà, Grégory Aldrit, le capitaine de cette équipe rochelaise. Romain, il n'y a pas de calcul à faire ce week-end, il faut gagner. Non. Et ensuite, on compte sur les autres.
Ouais, ça me fait penser à 2018, quand ils avaient reçu Paris. Ils étaient 7e dans la même position. Ils avaient battu Paris avec le bonus et ça n'avait pas suffi pour rebondir sur mes propos d'avant. Ils avaient même suivi la fin d'un autre match pendant 2 minutes sur la pelouse de Flandre. Et finalement, ils avaient été... Bouter du top 6, ça avait été le cas aussi la saison dernière. Ça ferait tâche de saison sans phase finale pour un club qui a été quand même double champion d'Europe au début de la décennie. Maintenant, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de choses à jeter que la saison dernière. C'est difficile de comparer les deux. Hein. Il y a quelques similitudes, mais il y a beaucoup de différences aussi. Beaucoup d'espoir porté par cette équipe de La Rochelle. Qui va devoir jeter un œil sur les autres pelouses à Chabans et à l'Arena. Ça va peut-être influer aussi sur la stratégie de fin de match. Maintenant, on en parlait avec Pierrot un peu plus tôt dans l'après-midi, pour aller coller 5 points à Paris, ce qui peut-être ne sera pas suffisant, mais déjà, espérer coller 5 points à Paris, il va falloir y aller quand même, Pierrot.
Évidemment, mais c'est exactement la même situation que Clermont l'an dernier. On en parlait de Clermont. Clermont était 7e, devait gagner à Montpellier, et il devait espérer des défaites. La Rochelle avait perdu du côté de Pau, Castres avait perdu du côté du Stade français, et Clermont s'était qualifié pour après un barrage qui avait été cata d'ailleurs. Mais évidemment que ce n'est pas impossible, mais tu l'as dit, mettre 5 points à cette équipe du Stade français qui n'a quasiment jamais laissé exploser un match. Ça a été le cas à Montpellier, mais parce que Montpellier était beaucoup plus fort qu'eux. Ça a été le cas au Racing, mais parce qu'ils avaient envoyé une équipe complètement remaniée, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On s'était demandé un petit peu que va faire le Stade français pour cette rencontre. On va détailler la compo, mais ils envoient une équipe qui est très costaud. C'est l'équipe qui a pris le plus de bonus dans le top 14 à égalité avec le Stade toulousain, donc preuve aussi qu'ils ont très souvent été au contact, à Clermont notamment, constant. À Bayonne. Ils ont jamais ou presque laissé filer. Et les Parisiens ont vraiment une opportunité d'être deuxième de ce top 14, parce qu'on part du principe que Montpellier va gagner à Lyon, et ce qui est très probable, mais ce n'est pas non plus donné d'avance que Lyon...
On part surtout du principe que Pau va gagner largement face à Montauban et va prendre 5 points aussi.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais si les Parisiens font mieux que Montpellier demain, ils sont en demi-finale.
T'es sérieux là ?
Non, mais
ils
gagnent avec bonus.
On rappelle, sur les points terrain, ils sont égalité. Donc ça se jouerait au goal average si jamais demain les deux prennent 5 points. Ou 4 points d'ailleurs.
Oui, oui.
Montpellier a plus 24 d'avance au goal average.
Je suis d'accord avec toi. Je dis juste que c'est une voir Montpellier perdre à Lyon, évidemment que c'est peu probable, mais ce n'est pas inenvisageable, je trouve.
Oui, bien sûr.
Donc j'aurais trouvé ça dommage que le Stade français bazarde ce match. C'est plutôt ça que je voulais dire. C'est que, un, il y a une opportunité de deuxième, et surtout, il suffit d'un petit point de bonus défensif pour être sûr d'être troisième, et donc éviter Toulouse en demi. Après, tu vas me dire, Montpellier ou Toulouse en demi, actuellement, on ne sait pas ce qui est le mieux. Mais je pense que c'est important pour le Stade français de se dire, on évite Toulouse à Marseille quand même. Et je pense qu'ils se sentent plus capables de battre Montpellier que de battre Toulouse. Et pour ça, il suffit d'un petit bonus défensif à La Rochelle. Donc, je suis content que le Stade français joue le jeu à fond, parce que notamment, j'avais un peu à travers la gorge ce derby au Racing où vous avez complètement bazardé le match alors que c'était un match qu'on attendait, qui était le dimanche soir en prime time. On s'était dit, c'est quand même dommage pour l'image du top 14 de faire ça. Là, on se disait, parce qu'ils peuvent aussi retrouver La Rochelle en barrage la semaine d'après. Donc on se disait, est-ce que tu vas te cramer tes cadres à La Rochelle en risquer de perdre ? Ils ont une stratégie qui est plutôt ambitieuse et que je trouve louable pour cette rencontre.
Tu dis cramer, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de risque parce que les mecs ne sont pas du tout cramés. Ils ont joué des mal classés tout le mois de mai. Leur dernier gros match, c'était fin avril contre Pau.
Ils ont bazardé la challenge.
Ils ont opéré des rotations, exactement. Je pense que la gestion de l'effectif, elle est très bonne, et pas seulement sur le mois dernier, depuis le début de la saison. Mais ils l'ont très bien fait aussi sur le plan européen.
Le Stade français est une équipe qui, pour aller très loin, je pense, va manquer un petit peu de facteur X, comme peut avoir le Racing, de mecs qui peuvent te faire la différence. Mais par contre, ils ont une trentaine de joueurs qui sont du même niveau et qui sont vraiment interchangeables. À plein de postes différents, les premières lignes, on parle souvent des premières lignes de Montpellier, mais les deux premières lignes du Stade français, elles sont quasiment du même niveau. Tu peux vraiment sortir des mecs, en mettre d'autres et pas voir un énorme impact. Donc c'est aussi ça qui fait que le Stade français arrive frais, on va dire, pour cette dernière ligne droite.
Je refais un petit point classement sur le haut du classement, sur le 2-3-4, donc deuxième Montpellier avec 78 points à égalité donc avec le Stade français, et Pau derrière avec 73 points qui affronte Montauban effectivement ce week-end.
Sera donc à 78 points.
Voilà, qui sera donc à 78 points.
Ouh là là, tu te mouilles toi.
Ouais, j'ai pris les risques
d'angle. Attention, mais c'est pour ça que le moindre point de bonus peut permettre à une équipe ou à une autre, dans le cas de Montpellier et du Stade français, de se permettre de se qualifier en demi-finale directement, ce qui n'est pas négligeable. Côté compo, du coup, Pierre, ça donne quoi pour le Stade français ?
Une première ligne costaud, Abraham Ishvili, Nico Terra, Melikidze. Pour moi, c'est la meilleure première ligne que peut aligner le Stade français. Azago et Pesanti derrière, donc un premier joueur au repos, c'est Paul Gabriel, le capitaine. Mais Azago fait une belle saison. Tani Vili, Romain Briat et Sekou Makalou, titulaire en troisième ligne. Donc là aussi, pas d'Alaï Fonoua. On a fait des petits changements à la marge pour reposer certains cadres. Carbarlo, titulaire en neuf pour son retour à De Flandre. avec Louis Fourcent. Pour moi, ça, c'est le gros signe que quand même le Stade français n'envoie pas son équipe type, c'est de ne pas mettre Carbonel et de mettre Louis Fourcent, qui, pour le coup, est un moins bon joueur que Louis Carbonel. Et les matchs où il a joué, le Stade français a souvent été moins bon. Mais par contre, le 5 de derrière, c'est les titulaires habituels. Noah Néné en 12, Jérémy Ward en 13, Joe Marchand sur une aile, Peñassi Dacoaca sur l'autre et Léo Barré à l'arrière. Et avec, sur le banc, Pérez Blanc, Paiva, Alouémil, Skelzo, Chapuis, Motassi, Ezeala et Julien Delbouy qui fait son retour de blessure. Donc là aussi un petit peu hybride, mais de voir ce 12, 13, 14, 15 et cette première ligne qui sont les titulaires, ça fait quand même penser que le Stade français vient avec des idées, en tout cas à De Flandre.
Côté Rochelet, Romain, on le disait, c'est l'équipe en forme du moment. Pas de défaite depuis le 10 avril, c'était en Ulster et encore, c'était une équipe largement remaniée. Qui on affiche là, qui on aligne plutôt pour rencontrer le Stade français et essayer de gagner avec bonus si possible?
O'Gara reprend quasiment les mêmes et puis il recommence de semaine en semaine avec un 15 très compétitif. Wardi, Latous, Clavi, ça c'est la première ligne. Kanté Samba associé à Cancorier en deuxième ligne. Cancorier, on le dit depuis maintenant 6 semaines, c'est pas un numéro 5 de métier, mais alors qu'est-ce qui fait bien le taf quand même depuis quelques semaines, il est assez impressionnant. Botia titulaire, tiens, en troisième ligne avec Boudéan et Aldrit. Botia titulaire parce que Jégou est touché aux ischios depuis une semaine et il avait déjà manqué le match à Montauban. La charnière, c'est du classique qui enchaîne maintenant depuis des semaines. Le Gara et Castoy, elle fait beaucoup de bien cette charnière à La Rochelle. La paire de centres, Seteni, Lagivala et le triangle arrière avec Favre, Niniashvili et West. Côté blessé, Leeds est toujours forfait. Noël aussi, d'où ce triangle arrière reconduit. Et sur le banc, Lespio et non pas Bourgarit. Bourgarit n'est pas blessé, mais c'est un choix d'O'Gara de ne pas le mettre sur la feuille, lui qui manque de rythme, qui a été blessé quasiment tout le temps depuis 3 ans. Penverne, Lavo, Wakani Savary, Timo et Kuntelia, donc un banc avec 6 avant et 2 trois quarts, Thomas Bergeon et Adrien Segoui.
Oui, un 5-3 côté Stade français en face.
Pierre, si jamais il y a une égalité à 3, on parlait tout à l'heure de Montpellier, Stade français, Pau, si les 3 sont à 78 points à l'issue de cette journée,
qui est très peu probable quand même,
qui est en demi-finale,
c'est Montpellier normalement qui devrait y aller. Montpellier a l'avantage sur Pau dans les confrontations parce qu'ils ont privé Pau d'un bonus défensif lors du match retour et ils ont une différence, comme le disait Romain, de plus 24 sur le Stade français. Donc il faudrait que Montpellier prenne un énorme éclat à Lyon et que dans le même temps le Stade français ne perde pas de 3 points à La Rochelle. Donc s'il y a une égalité à 3, ce qui est déjà très peu probable, Montpellier devrait être en demi-finale. Globalement, Montpellier doit faire aussi bien que le Stade français pour rester à cette deuxième place. Et juste pour revenir sur le match, je trouve, Romain, qu'il y a vraiment des duels qui sont hyper intéressants. On aura une aile avec Niniashvili et Marchand. Il y a Barré face à West qui fait une belle deuxième partie de saison à l'arrière. Le Garek contre Carbarlo, là aussi il y a des beaux symboles. Macalou contre Aldrit, enfin il y a vraiment des... Et puis le duel des premières lignes, voir Sclavi et Wardi contre Abramijuli et Melikidze, il y a vraiment un match là qui ressemble à un match de phase finale.
Ça va secouer hein, ouais, à De Flandre je pense hein. Ouf.
Ça va taper.
J'aimerais pas être sur le terrain. Non. Je serais bien en tribune.
Jamais.
Tu sais que même Pau Montauban, je veux pas être sur le terrain, Romain. Soyons sérieux.
Non, mais Pierre, tu seras en tribune pour ce magnifique UBB Clermont.
C'est peut-être
transition
le meilleur.
Toute trouvée.
C'est peut-être le meilleur des trois.
Le meilleur des trois. UBB Clermont. Alors, je vous fais un point classement. UBB 6e avec 79 points. Clermont 8e avec 67 points. C'est extrêmement serré de toute manière jusqu'à la 8e place. Clermont qui reste sur une très lourde défaite, on en parlait en début d'épisode, pour sa dernière à domicile contre le Racing la semaine dernière. Pierre, il n'y a rien calé dans ce match.
Non, c'est catastrophique.
Donc là, c'est quoi la mission se donner un peu d'espoir à Bordeaux et faire le mieux possible.
Ouais, ça va être ça. Je rappelle juste les deux scénarios pour que les deux équipes se qualifient. Bordeaux doit gagner. Si Bordeaux prend un bonus offensif face à Clermont, l'Union Bordeaux-Bègles sera dans les 6, c'est sûr. Sinon, elle devra espérer soit que le Racing 92 perde, soit que le Stade Rochelais ne prenne pas le bonus offensif face au Stade français. Côté Clermont, c'est il faut gagner à Bordeaux et espérer soit une défaite du Racing, soit une défaite de La Rochelle. Donc voilà, c'est encore plus compliqué pour les Clermontois. Je pense que c'est la situation dans laquelle Christophe Heureux est le plus à l'aise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part dire faut s'y filer. On l'a vu toute la semaine dire il n'y aura pas de vidéo sur le match du Racing. Je pense qu'on ne va même pas regarder la vidéo de Bordeaux. Il a dit ça à France Bleu, enfin ici en début de semaine.
Ça fait penser à certains discours, ça. Je ne sais pas si tu te rappelles. Quand il avait perdu à Lyon, je pense que c'était juste avant le Covid ou juste après, je ne sais plus. Et quand il dit j'avais encore plus les boules.
Oui.
Et encore plus et plus les boules. Non, mais c'est le GPS.
C'est ça, mais je. Je ne sais pas s'il ment ou pas, mais je pense qu'en tout cas, il va conditionner ses joueurs dans une mission commando. Et je pense que ça, il sait très bien le faire, Christophe Heureux. Surtout face à une équipe comme Bordeaux, évidemment, avec laquelle il a un passif. Côté Bordeaux, il y a quand même des absents. Jalibert notamment, Tamei Funa évidemment également. Cameron Wauki n'est pas là non plus. Donc, Clermont va jouer son jeu. Et je ne pense pas que Clermont sera ridicule sur la pelouse de Bordeaux, parce que la semaine dernière, c'était évidemment un accident face au Racing. Ils se sont fait battre dans tous les domaines. Ils ont été pris de partout. C'était terrible. Tous les joueurs avaient la tête basse. Ils ont pris une déferlante comme ils n'avaient pas pris cette année. Mais
est-ce que tu peux te remettre de ça?
Je ne sais pas.
Enfin, la claque, elle est monumentale quand même.
Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'aller à Bordeaux, c'est la meilleure chose pour essayer de se remettre de ça. Dans le sens où, là, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu vas, t'as déjà perdu. Là, pour moi, ils partent en disant on est éliminé déjà. Donc, que faire d'autre à part tout envoyer sur la pelouse de Bordeaux? Maintenant, c'est mission quasiment impossible, ça, je suis d'accord avec toi. Hein.
Sauf s'ils jouent comme contre Toulouse, le match.
Contre Toulouse ou comme à Montpellier l'année dernière où ils vont chercher leur qualif, même si c'était pas sur la pelouse de Bordeaux. Mais là, Romain, je te vois venir avec ton comme quel gâchis. je suis d'accord avec toi quand on voit les perfs, notamment la perf à Toulouse qui était énorme. Mais. Comme je disais pour La Rochelle tout à l'heure, il y a beaucoup d'irrégularités aussi dans cette saison de Clermont. Ils perdent trois fois à la maison, Toulouse, Montpellier et le Racing, même si à Montpellier et à Toulouse, ils ont gagné, donc ils équilibrent. Ils ont fait des coups, mais ils ont par exemple deux défaites de plus que le Racing 92 cette saison. Ils ont pris plus de bonus et le Racing a fait un nul, donc ça fait qu'ils sont pas loin. Mais je trouve que... ils n'ont jamais lancé une série hyper positive, ils ont toujours été dans cet entre-deux, les supporters... il y a toujours une frange de supporters qui est très vindicative contre Christophe Heureux aussi. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu une série où on s'est dit « Ah, là, Clermont est impressionnant ». Il y a eu des matchs énormes, notamment celui à Toulouse, qui, moi, m'avait bluffé. Mais je trouve que, comme pour La Rochelle, en fait, tu as des performances qui sont mauvaises et qui font que, là, j'ai l'impression qu'ils sont à leur place quand même.
Oui, certainement. Mais quand je dis quel gâchis, c'est qu'on avait l'impression qu'ils avaient repris les cartes en main à Toulouse et que ça y est, la mayonnaise prenait. Et cette équipe, moi, me faisait un peu peur pour la fin de saison. Hein. Je pense que personne voulait taper Clermont en phase finale. Hein. Enfin, voulait prendre Clermont en phase finale. Maintenant, je t'avoue, moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils peuvent demain exploser en plein vol, quoi. Tu vois.
Ouais, c'est possible. Ah non, mais c'est tout à fait possible.
La digestion du truc, c'est quand même rude ce qu'ils ont reçu dimanche soir. Alors après, tu vois, j'étais à la conférence de presse de l'UBB donc ce vendredi et Yannick Bru disait « Oula, moi j'ai souvenir qu'on a fait des grosses contre-perfs à domicile et la semaine d'après, par contre, on était à notre meilleur niveau. »
Mais c'est pour ça que
je me méfie beaucoup de la bête.
C'est pour ça que je trouve que la configuration est parfaite pour l'entraîneur qui est Urios. C'est-à-dire qu'on sait comment il fonctionne. À Bordeaux, il va remonter les mecs comme des pendules et en leur disant « C'est la même chose que l'année dernière ». On devait gagner à Montpellier et espérer des défaites ailleurs. Ça s'est produit, donc on sait qu'on est capable de faire ça. Maintenant, gagner à Montpellier de l'année dernière et gagner à Bordeaux de cette année, je suis d'accord que c'est deux mondes différents. Mais un Bordeaux sans Mathieu Jalibert, sans Tamei Funa et sans Cameron Wauki, qui sont peut-être pour moi trois des cinq meilleurs joueurs de la saison bordelaise, c'est quand même pas la même équipe non plus en face. Donc je pense qu'ils doivent jouer leur coup à fond. Après, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas.
Si tu es prétendant au Brennus, tu dois pouvoir pallier l'absence de
oui,
cadre.
Mais ça n'a pas été le cas cette année, Romain, sur la fin de saison. La fin de saison, on regarde le match à Bayonne, avant que les cadres rentrent, c'est cata. Je pense que Bordeaux a moins de certitude avec certains joueurs. Après, on va parler du 15 de départ et il reste tout à fait compétitif et supérieur sur le papier à celui de Clermont. Mais je pense que Bordeaux doit vite prendre son envol dans ce match-là, parce que si Clermont à la mi-temps est qu'à 6-7 points, ils vont en tout cas se battre jusqu'au bout, ça c'est sûr.
Si Bordeaux se qualifie, moi je les vois aller très loin.
C'est possible aussi.
Si tu récupères Jalibert pour un barrage, ce qui n'est pas sûr, parce que Yannick Bru semblait pas forcément très optimiste aujourd'hui. Cameron Wauki, ça pourrait être le cas pour un éventuel barrage. Jalibert, c'est pas sûr.
Je suis d'accord avec toi que je pense que le Stade français ou Pau préfère recevoir Clermont que l'UBB en barrage la semaine prochaine, ça c'est certain.
Et l'objectif pour Bordeaux ce week-end, c'est de surtout pas gâcher cette belle saison après leur deuxième titre de champion d'Europe.
Il y a surtout l'envie de ne pas gâcher, ces derniers moments de plaisir ensemble. On sait que certains joueurs vont nous quitter. On sait aussi qu'on a bataillé quasiment 11 mois pour être là. Donc ça serait quand même une grosse arrogance que de se dire bon, mais on peut gâcher les trois dernières semaines parce qu'on a déjà fait quelque chose de bien. Donc ce n'est pas du tout l'état d'esprit de notre groupe. Au contraire, la volonté, c'est optimiser et accumuler ces moments de plaisir ensemble. Je pense que les joueurs n'ont pas envie que ça s'arrête. Donc à nous d'être tous, d'être très responsables par rapport à ça.
Et vous vous rendez compte la pression sur les épaules du Gorus, ouais. Qui sera donc titulaire à
l'ouverture demain. Troisième club de la saison.
Ouais. tu pourrais même dire presque quatre clubs en un an, parce que, enfin un peu plus d'un an, mais parce qu'il était à La Rochelle aussi la saison dernière. Il a finalement un destin qui a tourné là avec ce changement de club plus vite que prévu, parce qu'il était question qu'il arrive à l'intersaison prochaine, donc à l'été 2026. Finalement, ça s'est fait plus tôt. Il a joué en Champions Cup, il est étoilé encore une fois comme il l'avait été avec La Rochelle. Mais demain, un sacré pression sur le garçon, hein. Parce que je pense qu'on pourrait très vite le pointer du doigt si jamais ça passe pas, quoi.
Et sacré duel avec peut-être l'un des meilleurs joueurs du championnat cette saison, Harry Plummer, qui lui aussi était en dedans face au Racing 92 et qui donc forcément va avoir à cœur de remonter un petit peu là-bas.
Et bien tant que tu y es, Pierre, donne-nous la compo clermontoise, s'il te plaît.
On aura une première ligne, Lautrien, Barnabé, Massa et Régis Montagne qui enchaînent après le match face au Racing. Lannen et Kremer en deuxième ligne, donc Kremer qui monte dans la cage. Et une troisième ligne, il y a Tixeron, Emery et Célévasio Tolofoi, dont on parle peu, mais qui, je trouve, fait lui aussi une très belle saison. Jono Plummer, ça bouge pas évidemment à la charnière. Dari Carrère avec Loa Loa au centre, là aussi c'est pareil. Delgui sur l'aile droite, Amdaoui à l'arrière et c'est Yerim Fall qui est titulaire sur l'aile gauche à la place de Raka. Fall qui a fait quelques tournois à 7 cette saison avec l'équipe de France. Et sur le banc, Fourcade, Akaladze et Oyovan pour la première ligne. Ratouva, Sowakula et Mouaroua pour la deuxième et troisième ligne. Et puis Lucas Zamora et Irai Simone pour ce banc, donc en 6-2 côté Clermont.
Côté UBB, Romain, je te laisse développer la compo.
Alors, ce sera un banc en 6-2, mais d'abord le 15 de départ avec Poirot, Lamotte, Sadi en première ligne. Donc, on rappelle que c'est fin de saison pour Tammy Ifuna et pour Perchaud. Donc, attention quand même, ils sont limite hein, niveau effectif côté pilier. Deuxième ligne, Palu, Coleman. Troisième ligne, Mathieu entouré de Beauchaton et Verne Taillefer. La charnière, on en parlait, Lucu avec Reus. Au centre, Moefana, Penaud. Sur les ailes, Bielbiaré et Huberti. Et avec le numéro 15, Romain Buros, qui espère enfin, quelque part, lancer sa saison, qui pourrait donc s'arrêter samedi soir pour lui sur le banc. Barlow, Boniface, Caso, Jacobs, Gazzotti et Falatea du côté des avants. Et donc 2-3 quarts avec Arthur Retière et Rayassi.
Et Penaud qui retrouve le poste avec lequel il avait été champion de France avec Clermont en 2017, ouais, ce numéro 13.
Tu vois,
c'est pas le même joueur, mais...
Des clins d'œil du destin.
Big Ben qui s'est fait opérer cette semaine, c'est pour ça que c'est une fin de saison annoncée pour le pilier bordelais qui a pourtant fait énormément de bien cette saison à cette équipe bordelaise et qui pourrait peut-être être l'un des vrais garçons qui va manquer ce week-end à Bordeaux.
Mais comme je disais, Jalibert ou Okita Meifuna, c'est avec Lucu peut-être. Et c'est les trois joueurs peut-être les plus importants de l'équipe, avec Bielbiaré évidemment, mais enfin, c'est trois joueurs qui ont été cruciaux à des moments différents de la saison. Big Ben, là, sur cette fin de saison, il est énorme dès qu'il rentre. On a l'impression qu'il a perdu 10 ans et qu'il est beaucoup plus explosif qu'il ne l'a jamais été. Jalibert, c'est le meilleur 10 du top 14 sur la saison. Et Cameron Wauki a fait un step de niveau incroyable depuis son départ du Racing 92 l'année dernière. C'est trois mecs qui sont vraiment, vraiment très importants pour l'UBB. Et là, ça peut passer contre Clermont. Si tu n'as pas ces trois-là en barrage, ça va devenir compliqué.
Une précision juste sur Tammy Ifuna, parce que c'est lui qui a annoncé son opération et sa fin de saison, plusieurs mois d'absence cette semaine. Mais elle était programmée, cette opération, de très longue date, parce qu'il souffre d'une pathologie au niveau de l'épaule gauche. Et donc, je pense, enfin c'est même sûr, le staff a aussi anticipé son absence à ce moment-là de la saison. Il était question qu'il pousse jusqu'à la finale de Champions Cup, ce qu'il a fait avec brio. On l'a vu bien fêter la deuxième étoile les jours qui ont suivi. Il ne devait pas aller à Toulon, c'était Carlou Sadi qui devait y aller, et finalement Carlou Sadi ne pouvait pas, et Big Ben a levé la main en disant « Bon allez, je tire encore un dernier match avant l'opération ». Mais je pense que voilà, le staff a aussi fait en sorte que les pics de forme, alors je pense à Falatea pour le coup.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça coïncide plutôt bien avec le retour de Falatea.
Tu vois, bon, il savait ce qu'il faisait. C'est pas comme si il s'était pété là cette semaine et tu te retrouves face à un forfait que tu n'avais pas du tout anticipé.
Bien sûr. Falatea, je dis pas que c'est un luxe, tu as quand même deux droitiers de très bon niveau sur la pelouse.
Bon, l'UBB reste quand même messieurs favorites sur sa pelouse contre Clermont.
Ah oui, pour moi oui.
Ah, clairement. Clairement.
On fait pas de pronostic parce que le chef ne veut pas, mais je pense que Bordeaux va gagner.
Alors, je vais pas vous demander vos pronostics, mais quand même un peu.
Pourquoi ?
Je vais vous demander votre top 6.
Ah.
À l'issue de cette 26e journée, qui sera qualifié ?
Pour moi, à l'issue de cette 26e journée, rien ne va bouger dans le top 6, parce que je pense que Bordeaux va gagner, que le Racing va gagner, et que le Stade français va prendre un bonus à La Rochelle. Donc je dirais Toulouse, Montpellier, Stade français, Pau, Racing, Bordeaux, et donc des barrages Stade français, Bordeaux et Pau, Racing.
Très bien. Romain.
Moi, je pense que la seule chose qui peut évoluer, et non pas parce que je dis pas ça parce que je couvre La Rochelle, je vois quand même La Rochelle avoir le dernier mot face au Stade français, et les Rochelais, je suis pas sûr qu'ils regardent ce qui se passe à Chabans, parce que je vois aussi Bordeaux s'imposer à Chabans. Mais voilà, tu parlais de Rochelais qui supportait Toulouse, c'est le cas. Moi, j'en ai entendu cette semaine, et je me dis que Toulouse a quand même
La Rochelle qui remplace le Racing pour toi.
Ouais, enfin, je dis ça, j'en sais rien. Mais je me dis que Toulouse, quand même, là, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Il te faut des garanties avant de. Alors, mais... c'est plus la même équipe, on en a parlé tout à l'heure, à partir des demi-finales.
Et moi, mais avec le match du Racing à Clermont, je peux pas imaginer les voir perdre contre une équipe un peu remaniée de Toulouse chez eux. Ce serait. Mais en même temps, ce serait tellement Racing. Mais
ce serait Racing comme d'autres sont passés par là aussi. Sûr. Tu fais une énorme perf à l'extérieur. Évidemment. Et la semaine d'après,
non, mais
six
quand
jours
je dis
après,
c'est Racing
parce
que
c'est six jours, hein.
Ils ont toujours eu du mal à gagner dans ce stade et que ça a toujours été compliqué pour eux à l'Arena. Et en même temps, ils adorent ce stade et ils n'ont pas vraiment envie de le quitter. Et cette année, ils ont réussi à tenir. Et tu te dis, si là, ils perdent chez eux pour la dernière journée après avoir fait ce qu'ils ont fait
dur.
À Clermont,
c'est dur.
Ça serait dur.
Effectivement, mais de toute façon, dans tous les cas, pour l'équipe qui ne sera pas qualifiée, ce sera plus ou moins dur, même si on l'a dit, pour Clermont et pour La Rochelle, il y a une certaine forme de logique aussi de ne pas figurer parmi ces six qualifiés à l'issue de la saison.
Mais du coup, les barrages de Romain, ce serait Pau, La Rochelle et Racing Bordeaux. Non, et Pau et Stade français Bordeaux.
Bah, ça dépend le nombre de points entre La Rochelle et Bordeaux. Imaginons que Bordeaux ne prenne que, entre guillemets, hein, je dis entre guillemets, que 4 points et La Rochelle en prenne 5.
Ah, mais là, tu vas loin.
Quand même très compliqué. Non, mais on
fais
peut
les
faire
gagner
la...
déjà tes Rochelais.
On peut faire de la fiction. Ça voudrait dire que La Rochelle a encore une possibilité de passer devant Bordeaux.
Oui, bien sûr.
Ce qui pourrait changer l'ordre des barrages.
Ouais.
Bon, voilà. Après, moi, j'ai aucune certitude. Hein.
Et bien,
mais ce que je sais, c'est qu'on va se régaler.
Dimanche,
le multiplex va être génial.
Le multi, il va être d'enfer. Et généralement, souvenez-vous, les dernières saisons, il y a beaucoup de choses qui changent après l'heure de jeu.
Oui, c'est vrai.
Beaucoup, parce que les managers, même s'ils se mettent un petit peu au courant dès la mi-temps, ils commencent vraiment à regarder ce qui se passe sur les autres terrains à partir de l'heure de jeu ou juste avant. Et ça peut changer
avoir
certains choix stratégiques aussi. Et je pense qu'on va se régaler. Ça va être génial. Et voilà, je pense qu'il faudra attendre vraiment le coup de sifflet final, comme on l'a vu les dernières saisons, pour être sûr d'avoir le top 6.
On vous rabâche les oreilles en vous disant que ce top 14 est extrêmement serré. Mais là, c'est vrai que cette année... on se régale une nouvelle fois et on arrive à la dernière journée et c'est faites vos jeux parce que rien n'est fait. Messieurs...
Je prolonge encore, mais tu te dis, et on en revient à notre discussion tout à l'heure, que en fait, là, si tu prends les 8 premiers, t'as l'impression que les 8 peuvent être champions, potentiellement, cette année. Donc, ce qui change un petit peu par rapport à la saison dernière, rappelez-vous, Toulouse, grand favori avec Bordeaux. Là, on est un peu moins dans cette configuration.
Il y a quand même des équipes qui ont plus de limites que d'autres.
Ouais.
Mais,
bien sûr.
Mais... Il y en a qui sortent un peu plus leur épingle du jeu.
Oui,
mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est quand même plus resserré.
Oui.
Tu vois, je pense que les cotes se sont un peu resserrées, à mon avis.
Effectivement. Messieurs, pour conclure, comme d'habitude, je vais vous demander un joueur à suivre. Pierre, qui qui nous conseilles-tu de suivre ce week-end sur cette dernière journée ?
Je pense qu'on en a déjà parlé, mais je voulais dire un mot sur Tani Vili, qui est un joueur que je pensais... peut-être fini pour le top 14. Non, mais parce qu'il sort de c'est deux vrai. Saisons hyper compliquées.
Oh, plus que ça, même.
Bah, les deux dernières, quand même. La première à Bordeaux est pas si mal. Il joue la première à Bordeaux.
Oui, il joue. Fait d'armes.
Oui. Non, mais l'an dernier, c'est 4 titularisations à Vannes. Et l'année d'avant, c'est 5 matchs avec Bordeaux. Alors qu'à Clermont, il s'imposait comme un gros espoir. Il est de la génération du Ramo et Fana notamment. On se disait au centre, ça peut être un mec qui joue régulièrement en équipe de France. Ça a été un gros pari mené notamment par Morgan Parra pour le faire revenir au Stade français. Morgan Parra a joué avec lui à Clermont au début de Tani Vili. Il est arrivé un peu sur la pointe des pieds. On n'en attendait pas forcément grand-chose. Paul Gustard l'adore. Il en parle très souvent en disant Noah Néné. Mais Tani Vili aussi quand même. l'oubliez pas parce que c'est un joueur qui est dur au mal, qui avance toujours, qui est plus propre en défense que les Noah Néné pour l'instant. Moins magique, mais plus costaud. Et c'est vrai qu'il y avait un peu un embouteillage au centre avec Néné, Ward et Vili. Paul Gustard a souvent privilégié Tani Vili à Noah Néné sur un peu le cœur de la saison. Mais Noah Néné a quand même quelque chose d'assez magique dans ce championnat où il peut créer pour le coup à partir de rien. Et Jérémy Ward est indéboulonnable parce que c'est le capitaine de la défense du Stade français et c'est un joueur que je trouve aussi très sous-coté. Et du coup, Tani Vili, il est monté dans la cage depuis deux matchs. Il joue en troisième ligne. On parlait des talonneurs qui jouent numéro 6, mais les centres aussi peuvent le faire. C'est le cas de Tani Vili. Il l'a fait face à Bayonne la semaine dernière. Il y a eu quelques petites imprécisions, notamment qui ont rendu un peu folle le staff, parce que en pick and go, il essaie d'attraper le ballon à une main pour faire un crochet intérieur. On lui a demandé de se calmer un petit peu. Et évidemment, tu te fais pas plaquer par les mêmes mecs dans les mêmes situations quand tu joues au 6 que quand tu joues au centre. Mais il marque quand même son essai, un essai plutôt de centre d'ailleurs, face à Bayonne. Et donc, ça permet d'aligner trois des meilleurs joueurs cette saison, c'est-à-dire Vili, Ward et Néné, ensemble. Et ça fait dommage que c'est le cas, et c'est quelque chose qui est fait en l'absence de Tanguy Noah à l'Aïfonois, mais qu'on pourrait revoir sur la fin de saison aussi, avec par exemple peut-être Vili et Ward titulaires au centre, Néné sur le banc, et puis Néné qui rentre et Vili qui monte dans le pack. Donc voilà, c'est en tout cas plein de solutions pour Paul Gustard, et il fait vraiment une super saison.
Très bien, on surveillera ça. Romain, quel est ton joueur à suivre pour ce week-end?
Je vais t'emboîter le pas, Pierrot. C'est la première fois de la saison que je choisis un Rochelet. Tu vois, sur le fil, là, la dernière journée, j'y vais.
Ce serait pas un ancien Thibault. Parisien par hasard.
Ouais. Et voilà. Et je vais commencer comme toi, un joueur qu'on pensait perdu. Alors, peut-être moins que Vili.
Pas tout à fait. Enfin, c'est pas le même.
Sur le rugby à 15. Oui. Sur le rugby à 15. Attention, je précise. Il est champion olympique à 7. Il a fait ses preuves à 7. Il est devenu un cadre de France 7. Il est énorme. Mais à 15, ça ne s'est pas forcément goupillé comme il aurait voulu. Il avait commencé à Massy, en Pro D2. À titre individuel, on voyait qu'il sortait du lot parce que Massy était quand même en grande difficulté. Ils sont descendus cette année-là. Il enchaîne avec le championnat du monde U20 en 2023. Il est champion du monde, même s'il est sacrifié un peu pour la finale, il est champion du monde. Il y a ce titre à 7 et puis la passerelle à 15 qui ne se fait pas avec le Stade français. Pourtant, dans un environnement, on pourrait dire qu'il était presque chez lui, puisque voilà, il est de Massy, mais ça n'a pas collé et on le sent dans ses déclarations encore aujourd'hui, où il insiste sur le côté très familial de La Rochelle avec des joueurs très bienveillants, des coachs qui lui faisaient confiance. Et autant quand il a signé en tant que joker médical, c'était au mois de février, à La Rochelle, on se disait, en ayant des échos parisiens, oulala, compliqué quand même, pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu. Et ben, au bout de 15 jours d'entraînement, il est déjà sur la feuille. Son premier match, il fait une entrée mais monumentale, et depuis il enchaîne. Il fait des matchs franchement incroyables à 15, et donc il y a un truc qui est en train de se passer avec lui. Il est bien dans ce système de jeu de La Rochelle qui a complètement changé et qui colle parfaitement à ses qualités de setiste. Et un peu comme Tani Vili, même si c'est, on le disait, dans des contextes différents, il est en train de s'exprimer pleinement.
Moi, je suis d'accord avec toi. Et c'était, enfin, pour le coup, moi, quand il est parti à La Rochelle, je me suis dit quelle erreur de le laisser partir. Mais ça ne marchait pas. Je suis d'accord avec toi. Ça ne marchait pas au Stade français. Ça ne marchait pas avec Paul Gustard.
Il n'était pas dans les plans. Hein.
Il n'était pas dans les plans. Ça le faisait jouer à l'aile en Challenge Cup. Enfin, ça ne fonctionnait pas. Et ils n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente. Lui, ça ne se passait pas forcément bien au club. Donc, pour sa carrière, il a eu raison de partir. Mais c'est une bombe. Quand il est parti à La Rochelle, je me suis dit, mais c'est un super coup du Stade Rochelet. Ouais. Si c'est le genre de joueur que si tu arrives à mettre la tête à l'endroit, il a des qualités physiques qui sont exceptionnel, c'est un des meilleurs pour jouer debout. Il a une qualité dans les rucks qui vient de son passé de setiste, enfin même de son présent de setiste, qui font qu'il est un des tout meilleurs sur les soutiens offensifs et sur les grattages. Et il a ce physique un peu dans un entre-deux où on se dit est-ce qu'il est vraiment assez costaud pour jouer troisième ligne ou est-ce qu'il serait pas plus à l'aise derrière. Mais en fait, là, les matchs qu'il fait en troisième ligne à La Rochelle, il est énorme et il fait partie de tes joueurs hybrides qui, en fait, il peut jouer partout.
Bien sûr,
Timo, il peut jouer 6, 7, 12, 13 ailier. En fait, il peut parfaitement.
L'un de ses premiers entraînements à La Rochelle, on l'a vu s'entraîner à l'arrière.
Oui, mais ça
parce qu'il y avait encore flopé de blessés à La Rochelle et donc il aurait pu jouer ce match au centre. Et finalement, ils ont décidé de ne le faire s'entraîner ensuite qu'avec les avants. Et ça lui va bien. Il est bien là au milieu de cette de ces avants qui reprennent des couleurs hein, quand même.
Oui, et puis contre l'expérience qui sont.
Il crève l'écran. Alors à Montauban, attention, évidemment qu'à Montauban, il y a énormément de joueurs qui ont brillé cette saison. Mais c'est vrai qu'il fait un match monumental, il est partout. Quoi.
Ah, mais ce sont souvent des joueurs qui sont excellents en dehors de ces matchs contre Montauban. Je pensais au Stade français, c'est Noah Néné qui a crevé l'écran face à Montauban.
Oui, mais il est un joueur, l'un des
tout meilleurs dans son club. Donc c'est assez révélateur malgré tout. Bon, j'ai bien compris, messieurs, ce week-end, il faut suivre La Rochelle, le Stade français, en fait.
Et on pourrait même avoir les deux hommes à suivre face à face à un moment du match. Vili contre Timo. Et pas beau ce duel, quand même.
Donc ayez un œil tout particulier sur ce match-là, si vous voulez voir ces deux joueurs à suivre. Donc merci, messieurs. Écoutez, je vous souhaite un bon dernier match de phase régulière. Peut-être qu'on se retrouvera pour les phases finales, Pierre, toi, c'est sûr, avec tes clubs parisiens.
Au moins un. J'en ai
Romain,
un qui est sûr.
Rien n'est moins sûr. Si tu
laisse une place, Pierrot, laisse une place.
Et lundi, équipe type de l'année.
Équipe type de l'année, tout à fait, à retrouver lundi dans notre podcast, nouvel épisode d'Entre les poteaux. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous ne voulez pas manquer l'épisode. Abonnez-vous à cette chaîne de podcast et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Il y a un entretien aussi à venir avec Louis Carbonneff. Il y a plein de choses qui vont venir sur cette fin de saison. Bon dernier match à tous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour les phases finales. Ciao.